Les grandes espérances, deuxième partie, chapitre 17. Huit heures avaient sonné avant que je fusse arrivé à l'endroit où l'air commence à se parfumer de l'odeur des copeaux et de la sciure de bois provenant des chantiers de construction de bateaux et des fabricants de mâts, de rames et de poulies qui se trouvent au bord de l'eau. Toute cette partie des rives du fleuve, en aval du pont, m'était inconnue, et quand je me trouvais près de la Tamise, je vis que l'endroit que je cherchais n'était pas où je l'avais supposé, et qu'il n'était rien moins que facile à trouver. On l'appelait le moulin du bord de l'eau, près du bassin aux écus, Mill Pond Bank, Chinks Basin. Et je n'avais d'autres indications pour arriver près du bassin aux écus que de savoir qu'il se trouvait dans les environs de la vieille corderie de cuivre vert, Old Green Copper Rope Walk. Il est bien inutile de dire combien je vis de vaisseaux en réparation dans les bassins d'échouage, combien de vieilles carcasses de navires en train d'être démolies, quel amas de limons et d'autres lits laissés par la marée, quel chantier de construction et de démolition de bateaux, quelles ancres rouillées, mordant aveuglément dans la terre, quoique hors de service depuis des années. Quel amas incommensurable de tonneaux et de madriers accumulés, et dans combien de champs de cordes, qui n'étaient pas la vieille corderie que je cherchais, je faillis maintes fois me perdre. Après avoir plusieurs fois touché à ma destination et m'en être autant de fois éloigné, j'arrivais inopinément par un détour au moulin du bord de l'eau. C'était une sorte de lieu assez frais, tout bien considéré, où le vent de la rivière avait assez de place pour se retourner et où il y avait deux ou trois arches et un tronçon de vieux moulin en ruine. Et puis, il y avait la vieille corderie, dont je pouvais distinguer l'étroite et longue perspective au clair de lune, le long d'une série de poteaux en bois plantés en terre, qui ressemblaient à de vieux râteaux à glaner et qui, en vieillissant, avaient perdu presque toutes leurs dents. Choisissant parmi les quelques habitations étranges qui entourent le moulin du bord de l'eau une maison à façade en bois à trois étages de fenêtres cintrées, pas à travées, ce qui n'est pas du tout la même chose, j'examinai la plaque de la porte et j'y lus « Mrs. Whimple ». C'était le nom que je cherchais. Je frappai et une femme âgée, à l'air aimable et aisé, vint m'ouvrir. Elle fut immédiatement remplacée par Herbert, qui me conduisit en silence dans le parloir et ferma la porte. Il me semblait étrange de voir son visage, qui m'était familier, tout à fait chez lui dans ce quartier et dans cette chambre, qui m'était si peu familier, et je me surpris le regardant avec autant d'étonnement que je regardais le buffet du coin avec ses verres et ses porcelaines de Chine, les coquillages sur la cheminée et les gravures coloriées sur la muraille, représentant la mort du capitaine Cook, le lancement d'un vaisseau, et Sa Majesté, le roi George III, en perruque de cocher, en grande tenue, en culotte de peau et en bottes à revers, sur la terrasse de Windsor. « Tout va bien, Handel, » dit Herbert, « et il est très content, quoique très désireux de vous voir. Ma chère Clara est avec son père, et si vous voulez attendre jusqu'à ce qu'elle descende, je vous la présenterai. Puis ensuite, nous monterons là-haut. C'est son père. » J'avais entendu un grognement plaintif au-dessus de ma tête, et probablement mon visage avait exprimé une muette interrogation. « Je crains que ce ne soit un triste et vieux routier, » dit Herbert en souriant. « Mais je ne l'ai jamais vu. Ne sentez-vous pas le rhum ? Il ne le quitte pas. »«
Le rhum ? » dis-je.
« Oui, » repartit Herbert. « Et vous pouvez vous imaginer comment il calme sa goutte. » Il persiste aussi à garder toutes les provisions là-haut dans sa chambre et à les distribuer. Il les entasse sur des planches au-dessus de sa tête et il pèse tout. Sa chambre doit avoir l'air de la boutique d'un épicier. Pendant qu'il parlait ainsi, le grognement de tout à l'heure était devenu un rugissement prolongé, puis il s'éteignit. « Quelle autre conséquence pouvait-il en résulter ? » dit Herbert en manière d'explication. « S'il a voulu couper le fromage. » Un homme qui a la goutte dans la main droite et partout ailleurs, peut-il s'attendre à trancher un double Gloucester sans se faire mal ? Il paraissait s'être fait très mal, car il fit entendre un autre rugissement, furieux cette fois-ci. Avoir Provis pour locataire de l'étage supérieur est une véritable aubaine pour Mrs. Whimple, dit Herbert, car il est certain qu'en général, personne ne supporterait ce bruit. C'est une curieuse maison, Handel, n'est-ce pas ? C'était une curieuse maison en vérité, mais elle était remarquablement propre et bien tenue. « Mrs. Whimple, dit Herbert, quand je lui fis cette remarque, est le modèle des ménagères, et je ne sais réellement pas ce que ferait ma Clara sans son aide maternelle, car Clara n'a plus sa mère, Handel, ni aucun parent dans le monde, après le vieux Graffengrim. Assurément, ce n'est pas son nom, Herbert. Non, non, dit Herbert, c'est le nom que je lui ai donné. Son nom est M. Barley. Mais quelle bénédiction pour le fils de mon père et de ma mère d'aimer une fille qui n'a pas de parents et qui ne peut jamais se tracasser elle-même, ni tracasser les autres à propos de sa famille. Herbert m'avait dit, dans une première occasion, et me rappela alors, qu'il avait d'abord connu Miss Clara Barley quand elle terminait son éducation dans une pension d'Hammersmith, et que, lorsqu'elle avait été rappelée à la maison pour soigner son père, lui et elle avaient confié leur affection à la maternelle Mrs. Whimple, par laquelle elle avait toujours été protégée depuis, avec une bonté et une discrétion sans égale. Il était entendu que, quoique ce fût d'une nature tendre, ne pouvait être confié au vieux Barley, par la raison qu'il n'entendait absolument rien au sujet plus psychologique que la goutte, le rhum et les fournitures de vivres. Pendant que nous causions ainsi à voix basse et que le grognement soutenu du vieux Barley vibrait dans la poutre qui traversait le plafond, la porte du parloir s'ouvrit et une très jolie fille, élancée, aux yeux bleus, âgée d'environ 20 ans, entra, tenant un panier à la main. Herbert la débarrassa tendrement du panier et me la présenta en rougissant. « Clara, me dit-il. » C'était réellement une personne bien charmante, et elle aurait pu passer pour une fée captive que cet ogre brutal de vieux Barley avait forcé à le servir. « Tenez, dit Herbert, en me montrant le panier avec un sourire tendre et compatissant. Voici le souper de la pauvre Clara, qu'on lui sert tous les soirs. Voici sa ration de pain et sa tranche de fromage. Et voici son rhum, que je bois. Voici le déjeuner de M. Barley pour demain. Il est tout prêt à cuire. 2 côtelettes de mouton, 3 pommes de terre, 1 peu de pois cassé, 1 peu de farine, 2 onces de beurre, 1 pincée de sel, et tout ce poivre noir. Tout cela est cuit ensemble et servi chaud. Qu'on me pende, si ce n'est pas une excellente chose pour la goutte. » Il y avait quelque chose de si naturel et de si charmant dans la manière résignée avec laquelle Clara regardait ses provisions une à une, à mesure que Herbert en faisait l'énumération, et quelque chose de si confiant, de si aimant et de si innocent dans la manière modeste avec laquelle elle s'abandonnait aux bras d'Herbert, qui l'enlaçait, et quelque chose de si doux en elle, qui avait tant besoin de protection au moulin du bord de l'eau, près du bassin aux écus et de la vieille corderie de cuivre vert, avec le vieux Barley grognant dans la poutre, que je n'aurais pas voulu défaire l'engagement qui existait entre elle et Herbert pour tout l'argent contenu dans le portefeuille que je n'avais jamais ouvert. Je la regardais avec plaisir et admiration, quand tout à coup le grognement redevint un rugissement, et on entendit à l'étage, au-dessus, un effroyable bruit, comme si un géant à jambes de bois essayait de percer le plafond pour venir à nous. Sur ce, Clara dit à Herbert, « Papa me demande, mon ami. » Et elle se sauva. « Voilà un vieux gueux que vous aurez de la peine à comprendre, » dit Herbert. « Que croyez-vous qu'il demande, Handel ?»« Je ne sais pas, » dis-je. « Quelque chose à boire. »« C'est cela même, » s'écria Herbert, comme si j'avais deviné quelque chose de très difficile. « Il a son grog préparé dans un petit baril sur sa table. Attendez un moment, et vous allez entendre Clara le soulever pour lui en faire prendre. » « Là, la voilà !» On entendit alors un autre rugissement avec une secousse prolongée à la fin. « Maintenant, » dit Herbert, le silence s'étant rétabli, « il boit. » Puis, le grognement ayant encore résonné dans la poutre, « Il est recouché !» ajouta Herbert. Clara revint bientôt après, et Herbert m'accompagna en haut pour voir l'objet de nos soins. En passant devant la porte de M. Barley, nous l'entendîmes murmurer d'une voix enrouée, dans un ton qui s'élevait et s'abaissait comme le vent, le refrain suivant, dans lequel je substitue un bon souhait à quelque chose de tout à fait opposé.
« Oh, soyez tous bénis! Voici le vieux Bill Barley! Le vieux Bill Barley! Soyez tous bénis! Voici le vieux Bill Barley à plat sur le dos! Mordieu! Couché à plat sur le dos comme une vieille limande blessée! Voici votre vieux Bill Barley! Soyez tous bénis! Oh, soyez tous bénis! »
Herbert m'apprit que l'invisible Barley conversait avec lui-même jour et nuit en manière de consolation, ayant souvent, quand il faisait jour, l'œil sur un télescope qui était ajusté sur son lit pour lui permettre de surveiller le fleuve. Je trouvais Provis confortablement installé dans ses deux petites chambres en haut de la maison. Elles étaient fraîches et bien aérées, et on y entendait beaucoup moins M. Barley qu'au-dessous. Il n'exprima nulle alarme, et parut n'en ressentir aucune qui valût la peine d'être mentionnée. Mais je fus frappé de son adoucissement indéfinissable. Je n'aurais pu dire alors comment ce changement s'était opéré, et dans la suite, quand je l'ai essayé, je n'ai jamais pu me rappeler comment cela avait pu se faire. Mais c'était un fait certain. Les réflexions que m'avait permis de faire un jour de repos avaient eu pour résultat ma détermination bien arrêtée de ne rien lui dire à l'égard de Compeyson. Car, d'après ce que je savais, son animosité contre cet homme pouvait le conduire à le chercher et à précipiter ainsi sa propre perte. En conséquence, quand Herbert et moi fûmes assis avec lui devant le feu, je lui demandai avant tout s'il s'en rapportait au jugement et aux sources d'information de Wemmick.
« Ah ah, mon cher ami, » répondit-il avec un grave signe de tête.
« Jaggers le connaît. »« Alors j'ai causé avec Wemmick, » dis-je, « et je suis venu pour vous dire quelle prudence il m'a recommandé et quel conseil il m'a donné. » Je le fis exactement avec la réserve que je viens de dire et je lui appris comment Wemmick avait entendu dire à Newgate, était-ce des employés ou des prisonniers, je ne pouvais le dire, qu'il était sous le coup de soupçons et que mon logement avait été surveillé, comment Wemmick avait recommandé qu'il restât caché pendant quelque temps, et que moi, je restasse éloigné de lui, et ce que Wemmick avait dit à propos de son éloignement. J'ajoutais que, bien entendu, quand il serait temps, je partirais avec lui ou que je le suivrais de près, selon ce qui paraîtrait plus prudent au jugement de Wemmick. Je ne touchais pas à ce qui devait suivre, car en vérité, je n'étais pas du tout tranquille, et ce n'était pas très clair dans mon propre esprit maintenant que je voyais Provis dans cette condition plus douce et cependant dans un péril imminent à cause de moi. Quant à changer ma manière de vivre, en augmentant mes dépenses, je lui demandais si, dans les circonstances présentes, difficiles et peu viables, cela ne serait pas simplement ridicule, sinon pire. Il ne put nier ceci, et même il se montra très raisonnable. Son retour était une entreprise très aventureuse. Il l'avait toujours considérée ainsi, disait-il. Il ne ferait rien pour la rendre désespérée, et il avait peu à craindre pour sa sûreté avec de si bons soutiens. Herbert, qui avait tenu les yeux fixés sur le feu en réfléchissant, dit alors « D'après les suggestions de Wemmick, il m'est venu à l'idée une chose qui pourra être de quelque utilité. Nous sommes tous les deux bons canotiers, Handel, et nous pourrions lui faire descendre nous-mêmes la rivière quand le moment sera venu. De cette manière, il n'y aurait à louer ni bateau, ni batelier, et cela nous épargnerait au moins le risque d'être soupçonnés. Et tous risques sont bons à éviter. Sans nous inquiéter de la saison, ne pensez-vous pas que ce serait une bonne chose si vous commenciez dès à présent à avoir un bateau à l'escalier du temple et si vous preniez l'habitude de monter et de descendre la rivière de temps en temps? Une fois que vous en auriez pris l'habitude, personne n'y fera attention et ne s'en inquiétera. Faites-le 20 fois ou 50 fois, et il n'y aura rien d'étonnant à ce que vous le fassiez une 21e ou une 51e fois. Ce plan me plut, et Provis en fut tout à fait enthousiasmé. Nous convînmes qu'il serait mis à exécution, et que Provis ne nous reconnaîtrait jamais si nous venions à descendre au-delà du pont, passer le moulin du bord de l'eau. Mais nous décidâmes ensuite qu'il baisserait le store de la partie orientale de sa fenêtre toutes les fois qu'il nous verrait, et que tout serait pour le mieux. Notre conférence étant alors terminée, et tout étant arrangé, je me levai pour partir, faisant observer à Herbert que lui et moi, nous ferions mieux de ne pas rentrer ensemble, et que j'allais prendre une demi-heure d'avance sur lui. « Je n'aime pas à vous laisser ici, » dis-je à Provis, « bien que je ne doute pas que vous ne soyez plus en sûreté ici que près de moi. Adieu. »«
Cher enfant, » répondit-il en me serrant les mains, « je ne sais pas quand nous nous reverrons, et je n'aime pas le mot adieu. Dites-moi bonsoir. »«
Bonsoir. Herbert nous servira d'intermédiaire, et quand le moment arrivera, soyez certain que je serai prêt. Bonsoir. Bonsoir. » Comme nous pensions qu'il valait mieux qu'il restât dans son appartement, nous le quittâmes sur le palier devant sa porte, tenant une lumière par-dessus la rampe pour nous éclairer. En me retournant vers lui, je pensais à la première nuit de son retour, où nos positions étaient renversées, et où je supposais peu que j'aurais jamais le cœur gros et inquiet en me séparant de lui, comme je l'avais en ce moment. Le vieux Barley grognait et jurait quand nous repassâmes devant sa porte. Il paraissait n'avoir pas cessé et n'avoir pas l'intention de cesser. Quand nous arrivâmes au pied de l'escalier, je demandai à Herbert si Provis avait conservé son nom. Il répondit que bien certainement non, et que le locataire était M. Campbell. Il m'expliqua aussi que tout ce qu'on savait en ce lieu de ce M. Campbell, c'était qu'on le lui avait recommandé, à lui Herbert, et qu'il avait un grand intérêt personnel à ce qu'on eût bien soin de lui, et qu'il vécut d'une vie retirée. Ainsi, quand nous entrâmes dans le salon où Mrs. Whimple et Clara travaillaient, je ne dis rien de l'intérêt que je portais à M. Campbell, mais je le gardais pour moi. Quand j'eus pris congé de la jolie et charmante fille aux yeux noirs et de la bonne femme qui avait voué une honnête sympathie à une petite affaire d'amour véritable, je fus impressionné en remarquant combien la vieille corderie de cuivre vert était devenue un lieu tout à fait différent. Le vieux Barley pouvait être vieux comme les montagnes et juré comme un régiment tout entier. Mais il y avait compensation de jeunesse, de foi et d'espérance dans le bassin aux écus, en quantité suffisante pour déborder. Je pensais ensuite à Estelle et à notre séparation, et je rentrais chez moi bien triste. Tout était aussi tranquille que jamais dans le temple. Les fenêtres des chambres récemment occupées par Provis étaient sombres et tranquilles, et il n'y avait personne dans la cour du jardin. Je passais 2 ou 3 fois devant la fontaine avant de descendre les marches qui me séparaient de mon appartement, mais j'étais tout à fait seul. Découragé et fatigué comme je l'étais, je m'étais couché aussitôt arrivé. En rentrant, Herbert vint près de mon lit et me fit le même rapport. Ouvrant ensuite une des fenêtres, il regarda dehors à la lueur du clair de lune et me dit que le pavé était aussi solennellement solitaire que celui d'une cathédrale à la même heure. Le lendemain, je m'occupai à la recherche du bateau, et je ne fus pas long à trouver ce que je cherchais. J'amenai mon embarcation devant l'escalier du temple et l'attachai à un endroit où je pouvais l'atteindre en 1 ou 2 minutes, puis je commençai à me promener dedans comme pour m'exercer, quelquefois seul, quelquefois avec Herbert. Je sortais souvent, malgré le froid, la pluie et le grésil, et quand je fus sorti ainsi un certain nombre de fois, personne ne fit plus attention à moi. Je me tins d'abord au-dessus du pont de Blackfriars, mais à mesure que les heures de la marée changèrent, j'avançais vers le pont de Londres. C'était le vieux pont de Londres en ce temps-là, et, à certaines marées, il y avait là un courant de marée et un remous qui lui donnait une mauvaise réputation. la première fois que je passais le moulin du bord de l'eau, Herbert et moi, nous tenions une paire de rames, et, en allant comme en revenant, nous vîmes le store du côté de l'est se baisser. Herbert allait rarement moins de 3 fois par semaine au moulin, et jamais il ne m'apportait un mot de nouvelle qui fût le moins du monde alarmant. Cependant, je savais qu'il y avait des motifs de s'alarmer, et je ne pouvais me débarrasser de l'idée que j'étais surveillé. Une fois cette idée adoptée, elle ne me quitta plus, et il serait difficile de calculer combien de personnes innocentes je soupçonnais de mes pieds. En un mot, j'étais toujours rempli de crainte pour l'homme hardi qui se cachait. Herbert m'avait dit quelquefois qu'il trouvait du plaisir à se tenir à l'une de nos fenêtres quand la nuit était venue, et, quand la marée descendait, de penser qu'elle coulait avec tout ce qu'elle portait vers Clara. Mais je pensais avec horreur qu'elle coulait vers Magwitch, et que toute marque noire à sa surface pouvait être des gens à sa poursuite, s'en allant doucement, silencieusement et sûrement pour l'arrêter.